Les angles morts du climat, une émission collaborative de Radio Campus Paris avec Les Voix du Crépuscule, Quatrième Murmure et Triste Tropique. 12 février, 20h-21h30, en direct à l'Académie du Climat.
On est toujours en direct de l'Académie du Climat sur Radio Campus Paris. Et pour entamer cette troisième partie, toi Pascal, tu nous emmènes en Patagonie.
C'est l'été en Puelmapu, le nom autochtone de la Patagonie argentine. Depuis janvier, au moins 70 incendies ont brûlé et continuent de brûler les forêts de plusieurs provinces de la région, détruisant au passage des centaines d'habitations. Fin janvier, déjà 45 000 hectares étaient partis en fumée. 45 000 hectares, c'est 450 km², soit l'équivalent peu ou prou de deux départements de la petite couronne parisienne. Ce phénomène ne date pas de cette année. Cela fait à peu près 10 ans que des feux d'une force nouvelle se déclarent chaque été en Patagonie. En 2025, 150 000 hectares avaient brûlé. L'année dernière, au lieu de venir en aide aux populations, le gouverneur de la province du Chubut, Ignacio Nacho Torres, a accusé les Mapuches, peuple autochtone le plus représenté de la région, d'être à l'origine des incendies. Des perquisitions ont été effectuées dans des communautés Mapuches avec confiscation d'ordinateurs et autres biens, ainsi que relevé d'ADN. Une jeune femme a même été emprisonnée pendant 3 mois sans qu'aucune preuve n'ait été avancée. Pourtant, les causes réelles du désastre sont connues. Le réchauffement climatique, bien sûr, mais aussi la baisse drastique des budgets de prévention, notamment depuis l'élection de Javier Milei à la présidence de l'Argentine en 2023. Le budget du Service national de gestion des feux a ainsi été raboté de 69% et le Fonds de protection des forêts a été supprimé par décret. Le gouvernement argentin n'est pas le seul responsable. Le gouvernement de la province du Chubut maintient bloqué 600 millions de dollars de fonds de prévention contre les incendies alloués par l'ONU. D'autres causes encore sont à avancer. L'une me paraît particulièrement intéressante à mentionner parce qu'elle est un héritage direct de la dictature qui a sévi en Argentine entre 1976 et 1983. C'est la prolifération des pins qui ont été plantés à cette époque, le pin étant un arbre importé, très gourmand en eau et hautement inflammable. J'en profite pour dire qu'une soirée publique de solidarité se tiendra le 27 février à 18h30 au CICP à Paris, 21 Terre rue Voltaire, et qu'une cagnotte pour venir en aide aux communautés Mapuche est en ligne sur le site de terre.fr. On savait, quand le président d'extrême droite Milei est arrivé au pouvoir, qu'il était climato-sceptique, et cela se traduit dans sa politique. Le gouverneur Ignacio Torres, quant à lui, issu de la droite traditionnelle, a marché dans les pas de Javier Milei à ses débuts. Ce schéma de coupe budgétaire dans la prévention des risques liés à l'environnement me rappelle une autre catastrophe, les inondations d'octobre 2024 à Valence, en Espagne. Un gouvernement régional élu en 2023, consistant en une alliance droite-extrême droite, avait procédé à de telles coupes et la prévention avait largement fait défaut lors de la montée des eaux qui a, pour rappel, tué plus de 150 personnes. Alors, je pose la question, est-ce que les extrêmes droites, dès qu'elles arrivent au pouvoir, en plus de couper les budgets de la culture, s'attaquent toujours au budget de l'environnement ? Je vais garder le micro pour cette troisième partie d'entretien. Je vais me tourner vers vous, Juan Pablo Gutiérrez, si vous le voulez bien, en tant qu'assistant parlementaire européen. Avec le changement de, alors pas de majorité, mais en fait la grande progression de l'extrême droite et un peu de la droite au Parlement européen en 2024, est-ce qu'on voit des changements ou est-ce que finalement tout ça extrême droite, droite, gauche, ça ne change pas grand-chose en réalité. Et c'est juste une question de vision occidentale des ressources.
Je suis venu à cette interview, à cette émission, en tant que représentant de mon peuple. Pas pour parler, en tant qu'assistant parlementaire.
D'accord. Alors, est-ce que je vais du coup tourner la question autrement ? Et en tant que peuples autochtones, justement, est-ce que c'est pour vous, vous sentez des différences selon les couleurs politiques des gouvernements, ou est-ce que c'est toujours pareil pour vous ?
Non, c'est différent. Et déjà, à l'échelle de la Colombie, qui historiquement avons été gouvernés par la droite et l'extrême droite, Et avec l'avènement du premier gouvernement de gauche de l'histoire, l'actuel de Gustavo Petro, on a senti bien clairement la différence, la distinction, les différentes postures et vis-à-vis des enjeux et la correspondance de vision, mais en même temps une impossibilité et d'avancer, de changer la chose. Tellement la complexité de la problématique colombienne accumulée pendant plus de 2 siècles de république de droite et d'extrême droite et fait que ça soit tellement difficile de changer les choses en 4 ans de gouvernement. Et même à l'échelle mondiale. Et pour vous qui peut-être avez entendu les allocutions du président colombien à l'échelle internationale, elles ont été toujours assez pertinentes sur toutes les... sur tous les enjeux du monde actuel, qu'il s'agisse du génocide du peuple palestinien, du réchauffement climatique, de l'annulation de la dette, etc. Mais le consensus international est actuellement avec cette vague de l'international fasciste qui se réveille d'une petite sieste qu'elle était en train de faire de quelques décennies, avec beaucoup plus de force qu'avant, fait que... les volontés d'un petit gouvernement comme celui de la Colombie ne soient pas suffisantes, malheureusement.
Oui, alors, j'allais vous poser des questions sur la trajectoire dans laquelle on était, mais vous avez peut-être un complément par rapport à ce que vous avez dit avant, par rapport à ce que disait Juan Pablo Gutiérrez. Oui. Amida.
Oui, merci. Merci de me donner la parole. Je voulais simplement dire, là, pour répondre, enfin, pour enchaîner avec ce que mon camarade colombien vient de dire, c'est que il vient d'avoir, je vous invite, parce que c'est une petite lueur d'espoir que j'ai pu trouver dans les nouvelles tous les jours plus pessimistes et horribles qu'on est obligé de lire, qu'il y a eu des collègues qui ont fait un sondage des opinions publiques européennes dans 7 pays européens, donc France, Espagne, Allemagne, Italie, Pologne, Danemark, et je ne me souviens plus, peut-être Pays-Bas, mais je n'en suis pas sûre. Voilà, 7 pays. Et donc, dans ces 7 pays, alors la Pologne est un petit peu différente, mais... Les résultats vont dans le sens que je vais vous résumer très vite. Hein. Grosso modo, cette étude, elle est en ligne sur les trucs du Grand Continent et elle est à l'école normale, elle a été exposée récemment, etc. Ben, en gros, pour aller vite, Trump fédère d'une certaine façon les opinions publiques européennes, de l'extrême gauche au centre presque droit, quand je dis fédère, ça veut dire un peu unifie par rapport à lui. C'est-à-dire, est-ce qu'il fait peur? Est-ce qu'il est considéré comme néo-fasciste? Est-ce qu'il est considéré comme une menace très grave pour la démocratie et peut-être même pour la paix en Europe, etc. Est-ce qu'il est un allié ou il n'est pas un allié, etc. Bon. Ces forces-là se sont prononcées dans un sondage, évidemment. Hein. On a posé des questions. Toutes ces questions peuvent être consultées dans l'étude, etc. Grosso modo, de la même façon, pour l'extrême gauche à, au centre presque droit. Et ensuite, il divise par contre les opinions publiques qui sont traditionnellement d'extrême droite et de droite. Ça, c'est très intéressant parce que ça prouve quand même qu'il y a un espoir possible dans cette bataille qui est devant nous. Hein, parce que c'est ça que je voulais dire aussi. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec certaines des analyses de mon camarade autochtone, mais il y a un truc qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, les questions de la mutation que nous avons appelée dans notre prochain livre, la mutation climatique, quelque part unifient des enjeux de géopolitique et de démocratie. Et de climat, pas simplement climat d'ailleurs, c'est habitabilité de la Terre. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas simplement d'avoir des procédés techniques pour décarboner et dire qu'on va remplacer telle énergie, par telle voiture par telle autre, etc. Mais véritablement, effectivement, l'habitabilité de la Terre, ça veut dire les enjeux de biodiversité, ça veut dire la protection des océans et des mers profondes, etc. C'est tout cela qui est aujourd'hui la crise écologique majeure. Et donc, cette crise écologique, on pourra, selon nous, vraiment y répondre ou commencer à y répondre que si on comprend que son décor et quelque part ce basculement géopolitique terrible qui est quoi ? Qui est la peur aussi de toutes les forces fossiles qui produisent un certain nombre de richesses fossiles dont elles veulent continuer à vivre, à exploiter. Et c'est un sursaut vraiment existentiel pour eux. Donc et ça, on l'a senti à Belém. On l'a senti. C'est-à-dire, Trump n'était pas là, les États-Unis n'étaient pas là, mais l'Arabie saoudite était là, la Russie était là. Elle était particulièrement vocale. Elle n'était pas vocale depuis 4-5 ans. Elle n'allait même plus dans les COP. Ça ne l'intéressait pas, elle s'en fichait. Mais là, elle était là. Et elle a osé dire en plénière qu'il y a eu une discussion sous l'égide du président de la COP brésilien. Je ne sais pas si tu étais là, mais ce jour-là, il consultait un peu les délégations sur la formulation, enfin, il sondait un peu sur les formulations acceptables ou pas pour suivre les engagements des pays. C'est-à-dire comment on suit l'engagement des pays, on essaye de vérifier si ce qu'ils disent c'est n'importe quoi ou si ça va un peu avancer dans telle ou telle direction. Eh bien, la Russie, a été incroyablement violente pour dire il n'est pas question qu'on exerce quelques droits de regard sur ce qu'ont fait les pays parce que c'est une enfreinte aux droits de souveraineté des territoires. Bon, c'était quand même incroyable pour un pays qui envahit un autre, qui fait la guerre à un autre, etc., de dire ça dans cette enceinte. Donc, ça ne s'est pas passé totalement dans la douceur. Hein. Bon, et je prends cet exemple, il y en a eu d'autres, de l'Arabie saoudite, du groupe arabe, etc., qui ont fait de l'obstruction sur la question, effectivement, de la sortie des fossiles. Est-ce qu'il fallait le mettre dans le texte ou pas ? Ils ont dit, on en a parlé une fois, c'est fini. C'est fini, c'est pas à l'ordre du jour. Bon, donc voilà. Ce qui fait le cœur, quand même, des COP, c'était pas à l'ordre du jour d'en parler. Donc, c'est sûr que c'est pas... Si vous voulez, moi, je dis juste un mot et puis je vais me taire après. C'est que, je vous promets, enfin, j'essayerai, que les COP, chaque année, ça fait des années que j'y vais, que ça fait des années que je suis interviewé sur ces questions, etc. On dit qu'il faut arrêter les COP, ça ne marche pas, etc. Mais écoutez, on n'est pas les seuls. Parce que moi, je suis désolée, les pays du Sud, ils veulent que les COP existent. Il y a eu, après l'échec de la conférence de Copenhague, l'Europe était complètement écœurée, parce qu'elle avait pris une baffe dans la tête.
En 2009.
En 2009. Et l'année d'après, il y a eu une conférence à Cancun, au Brésil, au Mexique. Et vraiment, je dirais que l'Occident, les États-Unis étaient quasiment absents. Et l'Europe était prête à arrêter. Elle n'en pouvait plus. Elle avait pris une telle claque qu'elle... Eh bien, c'est les pays du Sud qui ont sauvé ce processus. Ils voulaient qu'il existe, ils voulaient que ça continue, parce qu'ils se sentent représentés là. Le multilatéralisme, pour ces pays, ça existe encore. C'est-à-dire, ils ont une voix la petite île qui risque d'être submergée du Pacifique, etc., elle a une voix comme la Chine. Donc, voilà.
Il y avait un des autres gros problèmes de cette COP. Donc, il y a eu le fait que la sortie des énergies fossiles n'ait pas été concrétisée. Mais il y a aussi, en fait, une forme d'hypocrisie quand même des pays du Nord global sur le financement de cette transition écologique. Parce que voilà, tous les pays du Nord s'accordent, enfin la majorité s'accorde à dire qu'il faut en effet faire une transition juste des énergies fossiles. Sauf que cette transition-là, il faut la financer. Et quand on touche au portefeuille, là, c'est pour le coup, la France a fait pas mal d'obstructions à ce niveau-là, a été très frileuse et ne voulait pas mettre plus d'argent. Ça a été une des conclusions aussi de la conférence de Bakou, que les pays du Nord global doivent financer les pays du Sud qu'ils ont eux-mêmes pillé et qui sont les premiers en ligne de mire des conséquences du dérèglement climatique. Mais sauf qu'en fait, cette enveloppe des pays du Nord aux pays du Sud n'était pas du tout suffisante. Et là, cette année, ça a même pas été, ça a pas encore été rediscuté. Et du coup, il y a vraiment en fait un problème à ce niveau-là aussi. Comment on finance ?
Soyons sérieux. Pour payer cette dette climatique, qu'effectivement on doit, tous les pays riches, les nouveaux riches de la planète, les pays pétroliers, la Chine, la deuxième puissance mondiale, elle est hors de la course. Elle a rien à payer. Donc aujourd'hui, il fallait que l'Europe, parce que la dette qui a été rediscutée à Bakou, elle est de 1300 milliards par an. Donc, vous connaissez le débat en France sur le budget, sur la dette. Vous imaginez qu'est-ce que c'est 1300 milliards ? Alors, évidemment que l'Europe ne voulait pas payer toute seule ça. Bon, je ne dis pas qu'elle a raison, mais enfin, on peut l'imaginer. C'est-à-dire discuter de ça sans rediscuter de qui doit payer, pourquoi il faut reprendre ça collectivement. Il faut effectivement une réforme profonde de la finance mondiale. Et ça, c'est absolument vrai. Avec une discussion, et là, certains économistes comme Chancel, Lucas Chancel, Piketty et tout ça, qui ont montré la montée des inégalités au cours des 10 dernières années, eh bien là, il y a de quoi discuter. Mais évidemment, la réforme de la finance mondiale, ce n'est pas à l'ordre du jour des COP. Ça, personne ne va en parler.
Je voudrais me tourner à nouveau vers Juan Pablo Gutiérrez. Là, je quitte un peu le terrain des COP, mais je reste dans la perspective des trajectoires, essayer de voir un peu où on va, comment ça évolue. Est-ce que, du point de vue des peuples autochtones, vous avez l'impression d'être plus entendu aujourd'hui ? Je ne parle pas des gouvernements, là, je ne parle pas des institutions. Je parle chez les autres opinions publiques, dans les sociétés civiles. Est-ce que vous avez l'impression que vous avez plus d'alliés je ne sais pas si vous utilisez le mot allié d'ailleurs.
On se rend compte inévitablement que plus cette crise systématique est grave, plus cette crise civilisationnelle de ce mode de vie occidental, de cet horizon de progrès, plus ça échoue, plus ça démontre que c'est un échec. Plus, pour la première fois dans l'histoire, notre voix, notre perspective, notre regard commence pour la première fois de l'histoire à être prise au sérieux, un tout petit peu. En dehors des sphères des prises de décision structurelles, bien sûr. Et là, on est passé d'être les sauvages, les incivilisés de l'histoire, et les primitifs, pour être peut-être une des voies qui aurait un des horizons les plus pertinents actuellement pour vivre en adéquation avec les lois naturelles de la vie, tout simplement, sans être considéré comme dogmatique, sans être considéré comme dogmatique, comme naturellement on nous a considéré. Alors plus cette crise elle est grave, et on se rend compte que plus la société civile majoritaire commence à avoir besoin d'autres réponses que ce système de civilisation est incapable de donner, et d'autres perspectives de vie qui sont au-delà de la raison, qui sont plus puissantes et plus profondes dans la sphère du sentir. et qui sont les, à nos yeux, les plus nécessaires et les plus adéquates en ce moment si nous voulons tout simplement survivre comme espèce humaine. Et je voulais juste finir pour les gens actuellement. Bah, ça fait 6 ans que je suis ici, je me rends compte de la préoccupation qu'il y a des gens qui veulent trouver une réponse, une solution. On écrit des thèses, on se brûle les neurones, on écrit des livres qu'on va sortir bientôt, comme la camarade vient de le dire, sur l'habitabilité de la Terre, pour comprendre quelque chose qu'un ver de terre ou une poule connaissent à la perfection. Et c'est ce que nous disons, volver à l'origine, revenir à l'origine, c'est-à-dire se reconnecter à nouveau avec les lois naturelles de la vie que nous, en tant que peuples autochtones, et n'avons jamais osé à faire, et nous n'avons jamais osé à nous déconnecter des lois naturelles de l'existence et à nous positionner au-dessus de l'essentiel de la mère Terre. Voilà, alors oui, plus la crise elle est grave, plus heureusement... Pour une fois, on commence à nous prendre un tout petit peu au sérieux.
Je voudrais me tourner vers Mélissa Nombry et parler un peu du journalisme. On va boucler avec l'émission d'avant. Est-ce que vous sentez une évolution dans le journalisme concernant les questions climatiques? Les questions, et je vais dire tout ce qui va autour, parce qu'on va peut-être justement élargir un peu aussi par rapport aux peuples autochtones, etc.
Ben, la grande différence qu'il y a depuis plusieurs années, c'est que maintenant la problématique du climat et de l'environnement prend de plus en plus de place, même si elle est clairement très minoritaire. Et aujourd'hui, avant, on était sur un discours où on mettait sur le même plan, un ou une climato-sceptique avec un ou une climatologue. C'était des choses qu'on pouvait voir sur les plateaux où voilà, on ne savait pas trop encore est-ce qu'il y a consensus, tout ça. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui n'est plus du tout possible, mais il y a un discours qui est beaucoup plus mesquin, c'est d'avoir un discours plutôt d'inaction. Maintenant, c'est déjà trop tard, c'est trop compliqué, les choses sont comme ça et c'est pas autrement. Donc voilà, il y a beaucoup ce discours d'inaction. Et il y a aussi maintenant beaucoup de débats autour de quelles solutions adopter. Et donc on a des discours un petit peu technosolutionnistes qui s'opposent à des discours décroissants ou des discours plus basés sur la nature. Et donc il y a un peu tout ça qui se mélange et c'est pas toujours facile de faire le tri. Et je pense qu'il est important, le plus important aujourd'hui, c'est de donner la parole en effet à des voix qui n'ont pas eu assez la parole, comme la voix des peuples autochtones, et aussi la parole à des scientifiques qui travaillent sur les sujets depuis longtemps, et essayer de sortir des dichotomies,
des oppositions
exactement. Je reprends l'exemple de la crise paysanne en ce moment. On oppose beaucoup les paysans qui nourrissent la terre, ces bons agriculteurs, aux écolo-bobos déracinés, déconnectés des problématiques environnementales. Et en fait, ça, c'est des discours qui sont construits et des oppositions qui sont c'est plus compliqué que ça, quoi. Et en plus, il y a aussi dans le paysage médiatique, il y a des discours qui sont beaucoup mis en avant, toujours pour revenir sur l'agriculture. Le syndicat qui est le plus mis en avant par les médias, c'est la FNSEA, qui est quand même main dans la main avec l'agro-industrie et l'agro-business, alors que d'autres syndicats comme la Confédération paysanne sont moins entendus, alors qu'ils proposent des solutions d'agroécologie, des solutions plus locales et des choses qui sortent complètement des logiques productivistes dont on hérite depuis les années 60. Et donc voilà, moi je pense c'est compliqué en ce moment de faire un peu le tri, mais il faut, comme le disait Charles Bert tout à l'heure, essayer de voir qui parle et avec quels intérêts. Voilà.
Merci Mélibri. Je pense que on arrive au terme de l'entretien. Je vais laisser la parole à Pierre-Yves pour conclure l'émission.
Et oui, comme l'a dit Pascal, c'est déjà la fin de cette émission spéciale sur Radio Campus Paris. On était à l'Académie du Climat avec les trois émissions de Radio Campus Paris, donc Les Voix du Crépuscule, Quatrième Murmure et Triste Tropique. C'est des émissions que vous pouvez retrouver sur radiocampusparis.org et sur le 93.9 FM. On était ce soir avec nos invités Juan Pablo Gutiérrez, Ami Dahan et Mélie Sandbri. Merci à tous les trois. Merci aussi à Emeric, Pascal et PA qui étaient avec nous en plateau. Merci à Philippe et à toute l'équipe de Radio Campus Paris pour la coordination. Merci au groupe Potager pour les pauses musicales savoureuses qu'on va d'ailleurs écouter tout à l'heure dans un instant. Merci aussi à l'Académie du Climat pour l'accueil. Et enfin, merci à vous, cher public. Mais restez avec nous parce que donc juste après ce dernier morceau de Potager, on accueille l'artiste Coquelicot qui sera aussi en direct sur Radio Campus Paris. À bientôt et bonne soirée.
Les angles morts du climat. 20h, 21h30 à l'Académie du Climat et sur Radio Campus Paris. We'll be right back.
Merci, merci beaucoup. Nous, c'est Potager sur Instagram, Collectif Potager. On joue bientôt, enfin demain soir, à Romainville. Donc, ce serait un plaisir de vous y voir. Et on a des petits CD à vous vendre si vous voulez. Donc, ce serait un plaisir de papoter avec vous. Et merci à tout le monde. Merci à Radio Campus, à l'Académie du Climat. Et merci beaucoup. Nous, c'est Potager.
Les Angles Morts du Climat, une émission collaborative de Radio Campus Paris avec Les Voix du Crépuscule, Quatrième Murmure et Triste Tropique. 12 février, 20h-21h30, en direct à l'Académie du Climat.